Seigneur, merci parce que, en effet, nous avons la joie encore de pouvoir ouvrir ta parole, de le faire en toute liberté, sans contrainte, Seigneur, et de pouvoir jouir de ton enseignement. Nous en avons besoin, Seigneur, parce que chaque jour, nous avons besoin d'apprendre à mieux te connaître, savoir aussi quelle est ta volonté pour nous. Ce dont nous avons besoin, Seigneur, encore, d'apprendre pour, Seigneur, grandir dans ton amour, dans ta connaissance. Aide-nous, Seigneur, à faire si que cette parole, nous, non seulement nous puissions l'écouter, mais aussi nous puissions la mettre en pratique. Et bénis notre frère ici présent, Seigneur, pour ce que tu as mis sur son cœur, pour le partager avec nous. Et à toi soit la gloire, vraiment, pour tout ce que nous entendons et nous pouvons faire avec toi, Seigneur. Amen. Merci.
Oui, Jean, je le taquine avec affection parce que il sait bien que si notre famille est dans cette église aujourd'hui, c'est en partie grâce à Jean et à Marie. Voilà, grâce à leur accueil. Cette semaine, notre deuxième fils a reçu Astrapi. Il est abonné à Astrapi. Et à l'occasion de Noël, ils ont réussi la performance de personnaliser le magazine en disant « Joyeux Noël Thomas », il se prénomme Thomas, « On t'aime Thomas ». Et je trouvais que c'était très fort, quoi, parce que vraiment, il est venu me mettre le magazine sous le nez en me disant « Regarde, papa ». Enfin, vraiment, c'était son magazine, quoi. Et je me disais qu'au fond, avec la parole de Dieu, c'est un peu la même chose. C'est vrai que la parole de Dieu s'adresse à chacun d'entre nous, mais quel cadeau personnel que nous pouvons recevoir. Et c'est comme si, au fond, sur la Bible, eh bien, il y a marqué en couverture « Pour toi » et en mettant notre prénom. Et ma prière ce matin, eh bien, que l'on puisse vraiment recevoir ce message de l'Évangile comme étant un message personnel. Et là, je ne m'adresse pas finalement à l'Église, à un groupe, mais à chaque individu et moi avec vous. Voilà. Ce matin, je vous propose d'ouvrir les Bibles dans Actes 16. Voilà, tu peux au moins le lancer, où nous allons parler de Lydie. Voilà. Et il y a quelques semaines, quand nous avons décidé avec Jo et Raphaël de nous intéresser à des personnages remarquables qui ne se faisaient pas remarquer, eh bien, pour finir, j'ai pensé assez rapidement à Lydie. Parce que dans le livre des Actes, il y a quelques versets qui concernent Lydie, mais je trouvais que c'était des versets intéressants. Et puis Lydie, dans la vie de Paul, eh bien, a été là au bon moment. Hein. Et je me suis dit qu'elle avait sans doute des choses à nous dire pour nos vies aujourd'hui. Et en préparant ce message, je me disais, zut, la seule Lydie que je connaisse a quitté l'église. Et aujourd'hui, qui je vois arriver? Quand même, hein? La vie est bien faite. Bienvenue Lydie. Ça aurait été beaucoup moins bien si... Enfin bref, bien fait de venir aujourd'hui. Allez, je vous propose de lire les 15 premiers versets dans Actes 16, donc. Il arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Or, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive croyante et d'un grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit, à cause des juifs de la région. Tous savaient en effet que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait les prescriptions décidées par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin qu'on les observe. Les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays Galate. Arrivés près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui le suppliait. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Dès qu'il eut cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. De Troas, nous avons fait voile droit sur Samothrace et le lendemain sur Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, première ville du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis à l'extérieur de la porte de la ville, près d'une rivière, dans un endroit où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Elle écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Après avoir reçu le baptême avec toute sa maison, elle nous a invités en disant « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. » elle nous en a pressé instamment. J'aime bien ces passages où il est question d'hommes et de femmes dans la simplicité de leur quotidien. Et je trouve qu'au fond, entrevoir une partie de leur vie de tous les jours permet d'entrer plus facilement en communion avec eux et au fond de mieux les connaître. Et en connaissant leur vie, eh bien, je peux tirer des enseignements pour ma propre vie. Et je prends plaisir, c'est vrai, à voir que la Bible, finalement, ce n'est pas un livre avec des discours hautement philosophiques, avec des textes complexes. Et c'est vrai qu'il y en a, et on peut en trouver. Mais la Bible, au fond, c'est un livre, ce sont des livres qui sont composés surtout d'histoires d'hommes et de femmes, comme vous et moi. Ce sont souvent des personnages, des personnes qui sont simples et qui font des choses extraordinaires parce qu'ils suivent Dieu. Ce sont les hommes et les femmes de Dieu. Mais ils me semblent proches parce que, au fond, lorsque je les rencontre dans leur quotidien, je me rends compte qu'ils vivent des choses que moi aussi je vis. Et ensemble, nous en avons vu quelques-uns dans ces dernières semaines, avec Joseph d'Arimathée quand Jo a prêché, Néhémie la semaine dernière avec Raphaël. Et quelque part, ça me rassure de constater que ces hommes et ces femmes de la Bible, eh bien, encore une fois, peuvent vivre les mêmes choses que moi. Ils rencontrent des difficultés, connaissent des joies, et alors je peux faire justement des parallèles avec ma vie. Et le passage que l'on a lu, eh bien, il est comme ça. Paul rencontre Timothée, il est accompagné de Silas, puis il rencontre Lydie. Et avant cet épisode, à la fin du chapitre 15, eh bien, il s'est séparé de Barnabé. Comme parfois, moi aussi, s'il s'est séparé de Barnabé, c'est parce qu'il y a eu un différend entre les deux. Et ça me rassure au fond que eh bien, même Paul a pu connaître un différend avec un de ses frères. Et que moi aussi, quand je peux avoir une divergence d'opinion avec un de mes frères, eh bien, je me sens moins seul et me disant que finalement, ça arrivait aussi à Paul. Bref, c'est la vie, quoi. Et ce que l'on peut vivre, eh bien, on le retrouve dans les personnages de la Bible. Et avant de nous intéresser à Lydie, ces quelques versets qui la concernent, eh bien, je vous propose de voir quelles sont les étapes qui ont mené Paul jusqu'à cette femme, jusqu'à cette rencontre. Femme remarquable, justement, qu'on ne remarque pas, ou peu en tout cas. Alors comme je l'ai dit, dans la fin du chapitre 15, eh bien, Paul s'est séparé de Barnabé. Puis juste après, il rencontre Timothée, avec qui il s'associe. Ensuite, ils veulent aller en Asie, comme c'est écrit. Mais voilà. Le texte nous dit « L'esprit les en empêche ». Et Paul a une vision dans la nuit, à partir du verset 9 que l'on a lu, pour aller en Macédoine, jusque dans la ville de Philippe qui se trouve en Macédoine. Et donc ils y vont d'une ville à l'autre et ils voyagent jusqu'à Philippe. Et là, ils rencontrent une femme, Lydie, originaire de Thyatire. Alors j'ai fait une carte, parce que je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas forcément tout dans la tête. Et voyez, Paul... pas très très net, mais voilà, Paul est parti d'ici, et puis voilà, il longe, c'est le chemin violet, comme ça, là. Et puis j'ai fait deux grandes flèches, où ici c'est la ville de Philippe, vous voyez, là où se déroule l'histoire, et puis tout le chemin qui mène à Philippe, avec les noms de la Bithynie dont on a parlé, l'Asie, dont on a parlé aussi, l'Asie n'a rien à voir avec l'Asie telle que l'on connaît aujourd'hui. L'Asie est une région de l'Asie mineure, justement. Et puis ici, eh bien, la flèche, la deuxième flèche, ou la première, ça dépend quel sens on regarde, eh bien, c'est la ville de Thyatire. Voilà, ce qui vous permet un peu de situer où se trouve l'action et le chemin que Paul et Silas ont fait, comme ça, voilà, par le Troas qui est ici, jusqu'à Philippe. Et puis ensuite, il va poursuivre son chemin pour revenir. Mais voilà, en ayant sous les yeux les villes et les régions qui sont notées. Et je trouve intéressant que Paul et Silas ont cherché à aller en Asie. Comme je l'ai dit, l'Asie, alors là, c'est pas très très bien situé. Il y a d'autres cartes qui situent l'Asie ici. Bon, c'est un détail, mais vous voyez, ça a un détail intéressant parce que la ville de Thyatire, eh bien, se trouve dans la région de l'Asie. Voilà. Donc voilà, c'est là où je l'ai situé. Autour des villes de Pergame, enfin bref, je ne vais pas faire trop long sur la géographie non plus, au risque de vous endormir. Donc, ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est que Paul et Silas rencontrent une femme ici, qui est d'originaire de la ville de Thyatire, alors que l'esprit, finalement, les a empêchés d'y aller en Asie. Vous voyez ? Il pourrait y avoir plus simple, au fond. C'est un peu comme si, au fond... vous ayez un cœur pour évangéliser, faire l'évangélisation à Paris, parce que vous trouvez que les Parisiens sont des gens formidables, et que vous auriez raison. Je vous laisse deviner où je suis né. Voilà. Et vous, la première personne au fond à qui vous annonciez l'évangile, soit née à la tronche, vive à Grenoble, et soit juste venue à Paris pour son travail. Vous diriez, zut, tout ça pour ça. Hein, j'aurais pu économiser du temps, rester à la maison et rencontrer les personnes de Grenoble à Grenoble. Ben voilà, c'est un peu ce qui se passe avec Paul, au fond. Hein. Il va jusqu'à Philippe pour rencontrer une femme qui venait d'Asie, là où, justement, il n'avait pas pu aller. Et en plus, Thyatire, donc la ville ici de Lydie, ne fait pas partie des villes où Paul est passé en mission. Hein, il est passé pas très loin, mais il n'est jamais passé là. Et pourtant, on sait qu'une église a été fondée dans cette ville. Vous savez pourquoi ? Comment ? Parce qu'elle fait partie des 7 églises qui ont été destinatrices des lettres que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Vous savez, dans l'Apocalypse, il est question de 7 lettres à destination de 7 églises. Donc, et Thyatire fait partie des églises qui ont reçu une lettre. Donc, on sait qu'une église a été fondée. Donc, on se retrouve au fond dans une situation où on sait qu'il y a une église qui est fondée, mais Paul n'y est pas allé et il a rencontré cette femme à Philippe de cette ville-là. Alors, est-ce que cette église a été fondée par l'intermédiaire de Lydie ou est-ce qu'elle a œuvré ? Là, on n'en sait rien. Hein, on n'est obligé que de faire des hypothèses, mais en tout cas, les faits sont là. Voilà. On sait simplement que Paul a rencontré, évangélisé une ville, une femme, comme je l'ai dit, qui venait de cette région dans laquelle il n'était pas allé. Hein, et pourtant, il y avait une église qui était implantée. Et c'est vrai que si nous avons dû nous organiser ça, on n'aurait pas procédé de cette façon. Hein. Pour implanter une église à Thyatire, le plus simple, ça aurait été d'envoyer Paul et des missionnaires dans cette ville pour implanter l'église. Hein, ça nous aurait paru plus simple et plus direct. Et en fait, non. C'est pas comme ça que le Seigneur a procédé. Hein, ça nous rappelle que le Seigneur, il est souverain. Hein, il fait tout comme il veut, comme il l'entend, et que notre logique n'est pas forcément sa logique. Ses plans ne sont pas ses plans. Et Raphaël, au fond, l'a rappelé aussi la semaine dernière avec la prédication. Il envoie Néhémie, qui était un spécialiste du vin, pour qui servait le vin à la table du roi, pour construire la muraille. Là aussi, il y a des paradoxes. Hein, ce n'est pas forcément ce à quoi on aurait pensé dans un premier temps. Hein. Et là, dans cette histoire, Paul fait rencontrer une femme à 300 km de chez elle. Voilà, ça aurait été plus simple d'aller directement dans la ville. Là aussi, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Et Néhémie n'aurait pas été forcément notre premier choix si nous avons dû... à choisir quelqu'un pour reconstruire la ville de Jérusalem. Alors je sais bien, même si dans notre église, il n'est pas là, nous avons un médecin chef de chantier. Là, avec Néhémie, c'est dommage, il n'est pas là, juste pour une fois. Là, Néhémie était échanson chef de chantier. C'est vrai que ce n'est pas la première logique. Et au fond, ça nous rappelle que Dieu n'a pas besoin de nous. Et parfois, nous nous agitons beaucoup pour avoir un maigre résultat. C'est mon premier point. Voilà. Dieu n'a pas besoin de nous pour porter du fruit. Et c'est vrai que parfois, on s'agite beaucoup pour avoir pas grand-chose. Et on porte du fruit là où nous ne nous attendons pas, là où nous ne l'avions pas prévu. Et c'est vrai dans d'autres domaines de notre vie que la vie spirituelle. Certains d'entre vous savent que je suis à mon compte. Parfois, je peux m'agiter beaucoup auprès d'un client pour obtenir quelque chose et à qui je ne tais rien. Et puis, j'ai un autre client qui arrive sans que je fasse rien. Voilà. Enfin, vraiment, pour moi, c'est Dieu souverain dans ma vie. Et ça me rappelle aussi l'épisode, vous savez, où les apôtres ont pêché toute la nuit, et à la fin de l'évangile de Jean, je crois, sans rien attraper, sans attraper le moindre poisson, toute la nuit. Pourtant, ce sont des pêcheurs professionnels, ils n'ont rien à attraper. Et au petit matin, Jésus leur demande de jeter les filets là. Et ils le font, et vous savez, si vous connaissez cette histoire, qu'ils en attrapent tellement que les filets sont prêts à craquer. Voilà. Notre logique n'est pas forcément la logique de Dieu. Et encore une fois, si j'ai encore une fois, parce que Raphaël en avait parlé la semaine dernière, cela renvoie à notre obéissance à l'autorité de Dieu. Hein, pour Néhémie, alors que sa spécialité, je l'ai rappelé, était de servir du vin, le Seigneur lui demande d'aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Parce que le Seigneur, comme Raphaël l'a rappelé aussi la semaine dernière, je le rappelle ici, le Seigneur cherche d'abord des hommes et des femmes qui lui obéissent. Il regarde au cœur. Est-ce que notre cœur est disposé, justement, à mettre en œuvre le plan de Dieu. Le contre-emploi, c'est-à-dire quand on est à contre-emploi, c'est d'œuvrer là où nous ne sommes pas qualifiés. Mais quand on œuvre là où on n'est pas qualifié, au fond, ça nous oblige à nous en remettre à Dieu. Si on donne une mission à un spécialiste, et il va se reposer sur ses compétences humaines, ce qu'il sait faire, ce qu'il a appris. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un spécialiste, il s'en remettra plus facilement à Dieu. Alors bien sûr, si je suis formé pour l'accomplissement du service, je serai plus efficace. Mais au fond, ce n'est pas le premier critère pour Dieu. Le premier critère pour servir, eh bien, c'est d'avoir un cœur obéissant à l'autorité de Dieu. Et je reviens sur le passage qui nous disait que le Saint-Esprit les avait empêchés d'aller en Asie. Hein, c'est peut-être étonnant parce que c'était tout à fait louable d'aller en Asie puisque pour évangéliser, annoncer l'évangile. Et ça, on le voit au verset 6. « Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie. » Et le texte ne nous dit pas comment l'Esprit Saint les a empêchés. Est-ce qu'ils ont essayé, puis les événements étaient contraires, et donc ils ont compris que ce n'était pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils ont eu la réponse dans une prière? Est-ce qu'il y a eu une vision? Enfin bref, on n'en sait rien. Tout ce que l'on sait, au fond, c'est que l'Esprit Saint les a empêchés. L'Esprit Saint leur a fait comprendre que ce n'était pas la bonne direction. Alors bien sûr qu'ils ont dû prier, mais comment ils l'ont su ça? L'Esprit, on ne sait pas comment l'Esprit s'y est pris. Et je me dis que ça nous arrangerait bien, au fond, là, de le savoir, comment il s'est pris l'Esprit. Hein, cela pourrait nous aider à prendre nos décisions. Eh bien non, on ne sait pas. Et c'est sans doute bien comme ça, parce qu'au fond, peut-être qu'on on appliquerait les mêmes recettes à nos vies, à des méthodes qui ne seraient pas forcément adaptées à nous, qui ne nous correspondraient pas forcément. Et c'est à nous d'écrire notre propre histoire avec le Seigneur. Et surtout d'enrichir notre intimité, notre relation avec lui, de manière à nous aider personnellement à discerner sa volonté. Hein, la Bible ne donne pas forcément des solutions comme ça à plaquer. Elle nous guide, bien sûr. Et puis les frères et les sœurs sont là pour nous aider à discerner la volonté de Dieu, dans la prière, dans les échanges. Mais au fond, c'est d'abord notre intimité, notre relation avec Dieu que nous avons à développer pour connaître sa volonté dans notre vie. C'est ma responsabilité première de chrétien. Et je trouve quand même étonnant, c'est que même Paul, c'est pas n'importe qui, Paul, bien sûr, eh bien, ne connaissait pas le chemin par lequel il devait passer, le chemin qu'il devait suivre. Il n'est pas parti d'Antioche, vous voyez à l'Est, là, tout à l'heure, là, je vous ai montré sur la carte, en disant, voilà le parcours que nous allons suivre, on va faire telle étape, et puis on va arriver tel jour à Philippe. Pas du tout, il n'en sait rien. Et il avance étape par étape, il tâtonne, il essaye, et ça ne fonctionne pas. Et je trouve que c'est encourageant aussi pour nos vies, où souvent, nous ne savons pas quelle direction prendre. Et cela arrivait même à Paul, avec l'intimité qu'il avait avec le Seigneur, avec la connaissance qu'il avait des choses de Dieu, il ne connaissait pas, Paul, la fin du film, ou la suite du film, si je puis dire. Il se laisse conduire. Et finalement, là aussi, même Paul, au fond, ne maîtrise pas grand-chose. Et j'ai une image, c'est que... pardon. Paul est le bouchon sur le fleuve, et un bouchon, comme un bouchon sur le fleuve de Dieu. Il se laisse porter. Alors parfois il y a des rapides, hein, parfois cela secoue même, puisque après l'épisode que l'on a lu, eh bien Paul se retrouve en prison, enfin c'est un épisode difficile pour lui. Et parfois le fleuve de Dieu eh bien, est un fleuve calme, et il arrive en Macédoine, rencontre Lydie, hein, guidée par ce fleuve, si je puis dire, de la volonté de Dieu. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il se retrouve en prison. Mais à chaque fois, il se laisse conduire. Paul est ce bouchon qui flotte sur le fleuve de Dieu. Et ce fleuve l'amène à rencontrer Timothée, qui aura de l'importance aussi dans le ministère de Paul. Puis Paul ensuite a une phase de surplace, un peu comme si le bouchon était coincé dans une branche ou dans un tourbillon. Il ne sait pas dans quelle direction aller. Et puis, d'un coup, pof, le bouchon... eh bien, est libéré et le fleuve continue. Et ce fleuve, justement, de la volonté de Dieu, l'amène à Philippe, où il rencontre Lydie, qui venait de Thyatire, là où il n'avait pas pu aller. Alors nous pourrions dire, au fond, là aussi, pas la peine de faire des projets, autant se laisser porter par le fleuve. C'est même pas la peine de chercher à avancer. Et je crois que ce serait une erreur, parce que le texte nous dit que Paul essaye, il ne reste pas inactif. Ils tentèrent d'aller en Bithynie, par exemple, et on peut penser qu'ils ont cherché à y aller dans cette région. Et ils y ont renoncé par l'Esprit Saint. Au verset 6, ils ont essayé de dire la parole en Asie, et l'Esprit Saint les envoie ailleurs. Donc Paul fait des projets, il essaye des choses, mais d'abord, il reste à l'écoute de la volonté de Dieu. Et sa volonté, la volonté de Dieu, eh bien, l'emmène à Philippe, où il rencontre Lydie au bord d'une rivière le jour du sabbat. Et voilà. Et maintenant, je vous invite à réfléchir justement à Lydie. Donc au verset 13, on apprend que Paul et Silas cherche un endroit pour prier, parce que c'était le jour du sabbat. Alors visiblement, il n'y avait pas de synagogue à Philippe, et les Juifs se réunissaient à l'extérieur de la ville. Et en lisant quelques commentaires, eh bien, j'ai lu que, sur ce sujet, j'ai lu que une synagogue était fondée à partir de 10 personnes. C'est-à-dire que quand il y avait 10 Juifs qui se réunissaient, eh bien, on pouvait construire ou fonder une synagogue. Ça veut dire que s'ils se réunissent comme ça à l'extérieur, on peut penser qu'il y avait moins de 10 personnes. Donc vous voyez, c'était vraiment un tout petit groupe de personnes qui priaient là au bord de la rivière, bien moins nombreux que le nombre de personnes que l'on est ce matin. Et nous apprenons aussi au verset 14 que Lydie était adoratrice de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire adoratrice de Dieu ? Ça signifie que Lydie était une prosélyte. Et prosélyte, c'est-à-dire qu'elle c'était une non-juive qui s'était convertie à la foi juive. Nous savons aussi qu'elle était marchande de pourpre, qui était la spécialité de la ville de Thyatire. Et la pourpre était une teinture qui était extraite d'une racine qui était abondante, une plante qui était abondante eh bien, dans la ville de Thyatire. Et comme vous en doutez, cette pourpre était utilisée pour la teinture des tissus. Paraît-il que ça se vendait assez cher, et on suppose donc que Lydie avait un revenu conséquent, suffisamment confortable de ce commerce. Voilà, je m'emballe et j'oublie la zapette. Intéressons-nous à présent à la deuxième partie du verset 14. Elle l'écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Puis sans transition, ensuite au verset 15, eh bien, où on apprend que Lydie reçoit le baptême. Et je crois que là, au fond, on a les ingrédients qui sont indispensables à la conversion. Le chemin personnel de Lydie qu'elle a accompli en se convertissant à la foi juive. Paul aussi qui lui annonce l'évangile, qui est là, qui l'a rejointe, c'est le coup de la conversion, c'est-à-dire la décision à prendre pour dire oui au Seigneur, et puis Dieu aussi qui lui a ouvert les cœurs, Dieu ouvre les cœurs. Et je tire de ces quatre étapes au fond deux enseignements, un enseignement en tant que chrétien et un enseignement pour les non-chrétiens. Tout d'abord en tant que chrétien, alors ce n'est pas une nouveauté, mais ce texte, là aussi, est un rappel de la nécessité que nous avons à annoncer l'Évangile, à la partager, ce que nous faisons par exemple avec Noël en fête, de mettre l'Évangile à la portée des personnes qui nous entourent, dans nos familles, dans nos villes. Et si nous ne le faisons pas, encore une fois, c'est rien de nouveau, mais c'est bien de le rappeler, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. C'est bien notre rôle de chrétien de partager l'Évangile, comme Paul l'a fait auprès de Lydie. Et la deuxième chose pour nous chrétiens est de prier pour que Dieu ouvre les cœurs. Et voyez là comment Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Eh bien, c'est notre rôle là aussi, de prier comme on l'a fait mercredi, pour là aussi Noël en fête, comme Jean l'a rappelé ce matin, pour prier que Dieu ouvre les cœurs. Et le deuxième enseignement que je tire concerne les personnes, plutôt que les personnes entre nous qui sont non chrétiennes, qui ne sont pas engagées avec le Seigneur. Et quand je ne suis pas chrétien, quand j'entends le message de l'Évangile, eh bien, j'ai ce chemin aussi, j'ai ma part de chemin à accomplir, comme Lydie l'a fait en se convertissant à la foi juive. Et ensuite, je dois prendre une décision, là aussi comme Lydie l'a fait. Et si vous n'êtes pas converti et que vous êtes parmi nous ce matin, au fond, eh bien, c'est que vous accomplissez, vous êtes en train d'accomplir ce chemin. Reste la décision à prendre vis-à-vis de Dieu. Et je ne peux pas rester entre deux. Qu'est-ce que je fais vis-à-vis de cette décision, vis-à-vis que Dieu m'aime et attend et veut, souhaite une relation personnelle avec moi. Et Lydie aussi était ouverte à la rencontre, ouverte à ce que Dieu intervienne dans sa vie, en allant prier le jour du sabbat, là près de la rivière. Et elle ne s'attendait pas à rencontrer Paul, comme Paul ne s'attendait pas non plus à rencontrer Lydie, mais elle l'a écoutée. Elle s'est engagée. Et de par son métier, eh bien, j'imagine que Lydie était plutôt quelqu'un d'entreprenante. Allant de l'avant, elle devait planifier des projets. Elle organisait le commerce de pourpre entre Thyatire et Philippe. Ça devait être compliqué, ça devait demander de la planification. Mais quand même, même si elle était plutôt quelqu'un à planifier, eh bien, elle était prête aussi à répondre aux opportunités que lui offrait le Seigneur. Et je crois que c'est un enseignement aussi pour moi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien planifier, j'aime bien organiser. Mais aussi, c'est important eh bien, d'accueillir les opportunités et les surprises de Dieu. Parce que si je suis trop rigide, Si je suis trop rigide dans mon organisation, trop rigide dans ma planification, eh bien, je risque de nuire à l'intervention de Dieu dans ma vie. Et Lydie n'avait sans doute pas prévu d'aller au-delà de la foi juive, mais elle a rencontré Paul. Et ça, c'était une rencontre imprévue. Et lui, Paul qui lui a dit que Jésus était le Messie. Et je résume un peu comme ça, c'est-à-dire que la planification, oui, mais la rigidité, non. Lydie a été ouverte, justement, à ces rencontres. Comme Paul, lui, devait planifier ses voyages, mais il était aussi et surtout à l'écoute de la voix de Dieu. Et il y répondait immédiatement. Et on en revient à l'obéissance. L'obéissance de Néhémie, allant à Jérusalem, obéissance de Paul, qui allait à Philippe, obéissance de Lydie, qui a reçu le baptême, obéissance des demandes à Dieu, qui n'étaient à la base pas prévues. Et c'est notre rôle, notre responsabilité de discerner les opportunités, les surprises de Dieu pour y répondre et lui obéir. Et la racine de l'obéissance, eh bien, c'est la confiance. Je n'obéis à l'autre que parce que je lui fais confiance. Et ces trois personnes, Lydie, Paul, Néhémie, eh bien, faisaient une confiance profonde au Seigneur. Il y a une autre raison pour laquelle je peux obéir à quelqu'un, c'est par la peur. Mais Dieu ne fonctionne vraiment pas du tout comme ça avec nous. Il nous le demande de lui faire confiance. Et on peut lui faire confiance. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut lui obéir. La suite du texte nous dit que toute la maison de Lydie s'est faite baptiser. Alors ça signifie que toute sa famille et puis ses serviteurs, si elle en avait, mais on peut penser que c'était le cas, eh bien a reçu le baptême. Donc par son écoute à la parole de Dieu et son obéissance, eh bien Lydie a contribué à ce que l'évangile se répande à Philippe, et en commençant par sa famille et ses serviteurs. Et la suite maintenant du verset 15 que l'on peut regarder. Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur. Lydie était prête à entendre et accepter la parole. Elle avait accompli un bout de chemin vers Dieu en se convertissant au judaïsme. Elle a obéi à l'appel de Dieu. Elle a contribué à ce que l'évangile se répande. Maintenant, elle se met au service de l'Église, eh bien, en invitant Paul et Silas. Et je crois que par le comportement de Lydie, eh bien, on a un exemple de ce que Dieu attend de nous. Cheminer avec le Seigneur. Prendre la décision de la conversion, répandre l'évangile, servir Dieu en servant l'Église. Mais ces quatre choses que Lydie met en œuvre, eh bien, c'est ce que nous demande aussi le Seigneur à faire avec lui. Et je trouve très belle sa formulation. Elle ne dit pas « si vous trouvez ma maison confortable » ou « si vous me trouvez suffisamment bien, venez chez moi ». Non, elle dit « si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur ». Et je crois qu'au fond que nous devrions formuler chaque demande de service, quand on offre nos services de cette manière. Si tu juges, toi le responsable de l'activité, si tu juges que je suis fidèle au Seigneur, alors je veux bien m'engager dans tel ou tel service. Et cela avant la compétence, car il n'y a rien de plus important que la fidélité justement au Seigneur. Alors ça ne signifie pas qu'il faille être parfait pour servir, mais être fidèle au Seigneur. Et au fond, nous devrions dire à Jean-Marc, si tu me juges fidèle, je veux bien faire des crêpes. Je ne sais pas s'il m'a entendu, non, il faut autre chose. Je lui dirai après. Si tu me juges au fidèle au Seigneur, eh bien, je veux bien faire des crêpes. Bien sûr que techniquement, je n'en ai pas besoin. Quoique dans mon cas, j'en ai pas besoin. Mais est-ce que je vais les faire avec amour? Est-ce que je vais donner un bon témoignage justement auprès de ceux à qui je vais les donner ces crêpes? Et auprès de ceux aussi avec qui je travaillerai? Car encore une fois, la manière dont je sers, eh bien, est plus importante que le service en lui-même et que l'objectif même du service. Alors, en conclusion, il n'y a pas qu'au Seigneur à qui Lydie est restée fidèle. Et nous avons vu que Lydie propose l'hospitalité à Paul et à Silas. Et là, le texte ne nous dit pas s'il accepte tout de suite son hospitalité. Mais dans la suite du texte, après que Paul soit allé en prison, eh bien, on retrouve Lydie. Et on la retrouve toujours au chapitre 16, au verset 40, que l'on n'a pas lu tout à l'heure. Quand ils furent sortis de la prison, et je vous invite à lire le passage entre les deux, parce que c'est vraiment un passage intéressant. Quand ils furent sortis de la prison, ils allèrent chez Lydie. Après avoir vu et encouragé les frères, ils partirent. Et Lydie ne les a pas abandonnés, ces prisonniers, même s'ils sont allés en prison, justement. Et peut-être que ça aurait pu lui porter préjudice, peut-être que ça a été le cas d'ailleurs. Lorsque Paul et Silas sont sortis de prison, Peut-être qu'elle risquait d'être jugée, vue par les autres habitants de Philippe, d'être considérée comme la personne qui a hébergé les fauteurs de troubles. Peut-être aussi que ça nuit à la réputation de Lydie et donc du coup à son commerce. Et peut-être, enfin, mais en tout cas, Lydie ne s'est pas arrêtée à ça. Elle est restée fidèle à Paul et à Silas. Et peut-être, là je fais des hypothèses, mais peut-être qu'au moment du départ de Paul et de Silas, quand ils ont quitté Lydie, lorsqu'ils sont allés à leur étape suivante, lorsqu'ils l'ont quitté, ils ont pu répondre à sa question ou à sa remarque. Et Paul, peut-être, vous vous souvenez que Lydie disait, si vous me jugez fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. Et peut-être que Paul lui a dit, oui Lydie, tu as été fidèle au Seigneur en nous invitant. Et ce n'est pas nous qui demeurons chez toi, mais le Seigneur. Et je crois que nous pouvons nous approprier cette phrase, justement. Nous pouvons, alors non pas l'adresser à Paul, bien sûr, mais l'adresser à Jésus. Seigneur, si tu juges que je te suis fidèle, alors viens chez moi et demeure-y. Et cette expression me fait penser à un autre épisode des évangiles, et je vais terminer là-dessus, dans l'épisode de Zachée. Vous savez, je vais simplement le lire dans Luc 19, dans les 5 premiers versets. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un homme Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes, qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » C'est la volonté première de Jésus de vouloir demeurer chez nous. Alors, formulons-lui cette invitation. Viens Jésus, demeure chez moi et reste-y. Amen. Mm-hmm.